le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant en ce dimanche. Nous sommes aujourd'hui le quatrième et dernier dimanche de l'Avent. C'est demain que nous célébrerons Noël. Aujourd'hui, pour ce culte, nous recevons le pasteur Emmanuel Lopez, pasteur actuellement à Toulouse et secrétaire général de la Fédération des Églises Adventistes de France Sud. Il s'intéresse aujourd'hui tout particulièrement à la généalogie de Jésus, et je vous invite d'ailleurs à avoir à portée de main votre Bible, si vous le souhaitez. Vous aurez certainement envie d'y jeter un coup d'œil pendant cette émission.
Chers auditeurs, bonjour. C'est un privilège et une joie pour moi de partager avec vous ce temps d'édification spirituelle. Une joie, disais-je, car c'est Noël, un enfant va naître, et quand la vie se manifeste ainsi, on se réjouit. Lorsque l'ange annonça à Marie la naissance de Jésus, il lui dit « Réjouis-toi ». Alors oui, réjouissons-nous. Et avec le prophète Ésaïe, chapitre 9, l'un des textes bibliques qui nous sont proposés à la lecture en ce quatrième dimanche de l'Avent, « Je te loue, Seigneur, car oui, tu rends notre joie immense, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Je prie pour que ce temps de réflexion biblique nous soit bénéfique. Le texte de l'Évangile qui nous est proposé à la lecture en ce quatrième dimanche de l'Avent 2017 est celui dit de l'annonce à Marie. Il se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1er. Lisons, voulez-vous, à partir du verset 28. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi ». Marie fut profondément troublée par ces paroles, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie a effectivement de quoi se réjouir. Cet enfant n'est pas n'importe quel enfant, si je puis dire. On lui dit, cet enfant, Jésus, sera appelé Fils du Très-Haut. Et puis aussi, comme le dit la traduction de la Bible en français courant, « Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre. » Un roi. Vous vous rendez compte? Et aussi fils de Dieu. Cela les disciples de Jésus ne l'ont compris que plus tard. Ils en ont acquis la conviction. C'est pourquoi ils vont le dire. Ils vont même chercher à le prouver d'une manière ou d'une autre. Ils l'ont fait notamment au travers des généalogies qui se trouvent dans les évangiles. Ce matin, j'aimerais vous parler des généalogies de Jésus qui se trouvent au tout début de l'évangile selon Matthieu, d'une part, et au chapitre 3 de l'évangile selon Luc, d'autre part.
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel.
Lorsque vous ouvrez votre Bible à l'Évangile selon Matthieu, où commencez-vous habituellement la lecture? Le plus souvent, on commence à lire l'Évangile de Matthieu au verset 18, n'est-il pas vrai? Le paragraphe qui précède, je ne sais pas si beaucoup l'ont lu parce qu'il s'agit d'une généalogie, une liste de noms qui n'est pas très évocatrice. Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 1 et suivant, je lis « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas avec Tamar engendra Phares et Zara, Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, etc. Je ne continue pas, je vous fais grâce de toute cette liste de noms qui se poursuit jusqu'au verset 16. On se demande ce que peut bien vouloir dire cette généalogie. Celle-ci n'est pas encore trop longue, mais la généalogie que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc est considérablement plus longue, et la tendance que l'on a donc, c'est de sauter par-dessus. Pourtant, voyez-vous, si ces généalogies sont là, ce n'est pas pour rien. Il y a en effet derrière les deux généalogies de Jésus, celle de Matthieu et celle de Luc, un certain nombre d'idées qui sont importantes, fondamentales. C'est vrai qu'il y a dans la Bible un certain nombre de généalogies et qu'on ne les lit pas souvent, voire jamais, comme je l'ai déjà dit. Ce qu'on peut remarquer cependant, c'est que dans l'Ancien Testament, à chaque moment important du peuple hébreu, à chaque tournant de l'histoire, il y a une généalogie. Par exemple, après le déluge, qui est un recommencement, généalogie. Après l'Exode, généalogie. Au moment de l'entrée en Canaan, généalogie. Au moment du retour de l'exil babylonien, généalogie. Et je crois donc que le phénomène est le même ici. Je relis les premiers mots de l'Évangile selon Matthieu, cette fois-ci dans la traduction œcuménique de la Bible, la Tob. Livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Si on prend le texte original, on pourrait très bien dire « livre de la Genèse de Jésus-Christ ». Ce texte nous interpelle donc dès le premier mot. C'est un commencement. Avec Jésus, c'est une ère nouvelle qui commence. Et puis donc, derrière cette expression « livre de la Genèse de Jésus-Christ », on a une suite de noms, une généalogie. Mais voilà, il faut l'avouer, il y a quelques problèmes. Je ne voudrais pas vous troubler, mais entre la généalogie de Jésus selon Matthieu et celle selon Luc, il y a des différences notables. Il n'y a pas le même nombre de noms. il y en a beaucoup plus chez Luc. Si j'ai bien compté, chez Luc, il y a 56 noms jusqu'à Abraham. Alors que chez Matthieu, jusqu'à Abraham, il y a 3 fois 14, dit-il, ce qui fait 42. Entre 42 et 56, ça fait une sacrée différence. Deuxième problème, quand on met la liste côte à côte, on se rend compte qu'il y a des différences de noms, carrément. Par exemple, chez Matthieu, chapitre 1er, versets 6 et 7, il nous est dit que David engendre Salomon, qui engendre Roboam, qui engendre Abia, etc. Alors que chez Luc, au chapitre 3, verset 31, on nous dit que David n'engendre pas Salomon, mais Nathan, qui engendre Matata, qui engendre Mena, etc. On a l'impression qu'il ne s'agit pas de la même famille. Et puis, troisième problème, Matthieu dit en conclusion de sa généalogie, au verset 17, « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. » Matthieu découpe sa généalogie en 3 cycles de 14. Il l'annonce. Mais si on additionne, le compte n'y est pas. Si l'on compte les noms qu'il donne d'Abraham au roi David, premier cycle, comptez, il y en a 13. Quand on prend de David à Jéconias, au temps de la déportation, deuxième cycle, il y en a 14. Là, c'est juste. Et quand on prend de la déportation à Jésus-Christ, troisième cycle, il y en a 13, de nouveau. Alors, ce n'est pas 3 fois 14, c'est 13. 14, 13. Matthieu dit 3 fois 14 générations et il en manque 2. En plus, quatrième problème, quand il dit 3 fois 14, il se permet des sélections. Par exemple, dans le deuxième cycle de 14, entre David et la déportation, vous avez à un moment donné Joram qui engendre Ozias. Eh bien, si vous prenez les généalogies de l'Ancien Testament et les comparez à celles de Matthieu, vous verrez qu'il a sauté 3 générations. Alors, c'est le seul cycle où il y a 14, effectivement, mais il en manque 3. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre arbre généalogique, mais en principe, quand on dit généalogie, on suppose, en tout cas dans notre mentalité occidentale, moderne, que c'est quelque chose de précis, de rigoureux. Est-ce que cela vous paraît sérieux, ces généalogies ? À la limite, je suis en train de vous donner raison de commencer la lecture de Matthieu au verset 18.
Je viens d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné.
Parlons à présent de la généalogie de Jésus qui se trouve dans l'évangile selon Luc, pour la comparer à celle de Matthieu. Je vous invite à lire avec moi, si vous avez éventuellement le texte biblique sous les yeux, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 3. Je vais lire dès le verset 21. Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait. Alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel qui dit « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et le texte biblique d'enchaîner, Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans, il était fils, croyait-on, de Joseph, fils de Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Yanaï, etc. Il y a donc toute une liste assez longue de noms qui s'enchaînent, une généalogie de Jésus qui remonte jusqu'à Adam. Et puis, il y a un saut très surprenant d'Adam à Dieu. La généalogie se termine ainsi au verset 38, « Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Dieu, c'est extraordinaire, c'est le cas de le dire. Je reviens à la généalogie de Matthieu pour la comparer à celle de Luc. Souvenez-vous, où commence la généalogie selon Matthieu? Quel est le personnage nommé le premier? C'est David. Premier verset, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Et puis après, il y a une sorte de saut en arrière dans le temps. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et commence la généalogie, Abraham engendra Isaac, etc. On remonte jusqu'à Abraham, même si c'est David qui a été cité, mis en premier. Dans l'évangile selon Luc, on remonte beaucoup plus haut. Ça remonte jusqu'à Adam et même à Dieu. Adam, fils de Dieu. Et puis, l'autre différence entre ces deux généalogies, c'est que l'ordre est inversé. Chez Matthieu, le point de départ est Abraham pour aboutir à Jésus-Christ. Chez Luc, on part de Jésus-Christ pour remonter jusqu'à Dieu. Alors, comment comprendre tout cela? Quel sens donner à ces généalogies? Matthieu nous parle de 3 fois 14 générations. Pourquoi 14? Eh bien parce que le chiffre 14 représente David. David, c'est 3 lettres en hébreu. Le dalet, D, le vav, un V, et puis encore le dalet, D. Donc ça fait DVD, puisqu'on n'écrit que les consonnes en hébreu. Dans l'alphabet hébraïque, chaque lettre a une valeur numérale. La lettre D, dalet, est la 4e de l'alphabet et le V, le vav, en est la 6e. Donc 4 plus 6 plus 4 encore, ça fait 14. David a donc une valeur numérale symbolique de 14. Je crois qu'on tient là une clé pour notre généalogie. Quand Matthieu dit 3 fois 14, c'est comme s'il disait 3 fois David. Et c'est confirmé par le fait que David vient au début de la généalogie. Jésus-Christ, fils de David. C'est le titre, l'intention de la généalogie qui est ainsi annoncée. En fait, c'est évident, Matthieu n'est absolument pas préoccupé de rigueur historique, comme nous l'entendons, nous. Il n'est pas là pour donner une généalogie complète qui tienne debout. Il est là pour montrer quelque chose. Cette généalogie a un but pédagogique. Une généalogie dans la Bible, et surtout celle-ci, a toujours un sens, un enseignement qu'elle veut véhiculer. Ici, le sens tourne autour de David. 3 fois 14 générations, il a découpé l'histoire en cycles, ce qui est assez fréquent dans le judaïsme. Matthieu, suivant cette coutume, découpe en cycles, 3 fois 14. Qu'il y en ait 14, 15, 17, qu'on saute des générations, ça n'a absolument aucune importance. Matthieu est tout à fait conscient, je pense, de ce qu'il faisait. Et personne n'aurait critiqué cette généalogie en lui disant « Oh, mais tu as sauté des générations, tu en as enlevé une, tu en as oublié 3 ». Non, pas du tout, parce qu'en faisant cela, il dit sa conviction. Avec cette généalogie, il veut montrer que David est le personnage central alors qu'on parle de Jésus. Je le répète, quand il dit 3 fois 14, cela veut dire 3 fois David. Quelle conclusion vous en tirez? Vous savez, le personnage royal par excellence dans l'Ancien Testament, c'est David. Mais plus que le personnage royal, David est celui qui a été choisi, désigné par Dieu pour être roi. Il a été oint, ce qui en hébreu se dit Mashiach, Messie. S'il y avait un personnage presque adoré, adulé dans l'Ancien Testament, parce que c'était un personnage extraordinaire malgré ses défaillances, c'était bien David. Jésus arrive, il est 3 fois David. Quand on dit, dès le début de l'évangile selon Matthieu, Jésus est 3 fois David, on veut dire qu'il est le roi Messie par excellence. Et quand on sait que l'évangile selon Matthieu s'adresse essentiellement à une communauté judéo-chrétienne, dès le départ, on donne la tonalité. Ce Jésus qui naît, ce n'est pas n'importe qui. c'est celui qui, à l'instar de David, est oint, choisi par Dieu pour régner. Puisqu'on est encore dans Matthieu, j'ajoute que dans cette généalogie du Messie, on n'a pas voulu faire d'exclusivisme. On n'a pas voulu dire c'est seulement des bons, des purs qui sont à l'origine du Messie. Non seulement il y a des hommes là qui sont fort peu recommandables, parfois, même David n'est pas sans reproche, mais on a ajouté des femmes, ce qui est tout à fait extraordinaire dans une généalogie à l'époque. Et on a pris des femmes étrangères et même des femmes de mauvaise vie. Pour bien montrer cette idée que finalement, derrière ce Messie qui vient, qui est fils de David et qui vient d'Abraham aussi, il n'y a pas d'exclusive. Il vient pour tous, en quelque sorte, il vient pour tous dans la mesure où il est issu de tous.
Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple. La gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour.
Quelques remarques encore sur la généalogie de l'évangile selon Luc. Généalogie étonnante parce qu'elle remonte jusqu'à Dieu. Avez-vous remarqué au verset 23 du chapitre 3 de l'évangile selon Luc l'énigmatique mais ô combien significatif « croyait-on » ou suivant les traductions « comme on le croyait, comme on le pensait ». Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. Il était fils, croyait-on, de Joseph, etc. Alors, le croyait-on, comment l'interpréter? Derrière le croyait-on, Luc veut indiquer que dans la naissance de Jésus, il y a quand même quelque chose qui échappe à l'entendement humain. Vous avez remarqué que cette généalogie arrive au chapitre 3, après le baptême de Jésus. C'est quand même surprenant. Dans la logique des choses, on l'aurait mis avant. Baptême donc de Jésus, sur lequel l'évangéliste ne s'attarde pas. Et puis, dit le texte, une voix qui vient du ciel et dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et puis, juste après, Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans, il était fils, croyait-on, de Joseph, fils d'un tel et un tel, etc. Au moment du baptême de Jésus, il y a quelque chose de fondamental qui se passe. L'Esprit-Saint descend d'une manière corporelle, c'est-à-dire d'une manière visible, concrète, et une voix dit « Tu es mon fils, moi, dit le ciel, aujourd'hui je t'ai engendré. » L'engendrement de Dieu correspond à la venue de l'Esprit. Voyez-vous, le croyait-on, c'est comme si Luc disait « vous croyez qu'il vient d'un tel ou d'un tel ?» Oui, c'est vrai, il y a eu des éléments humains qui sont en quelque sorte à l'origine de la naissance humaine du Christ. Mais n'oubliez pas qu'il est venu à l'existence du fait d'un engendrement divin. Et la généalogie de Luc, qui remonte jusqu'à Dieu, est là donc pour appuyer cette conviction. Et vous voyez ainsi que l'orientation de la généalogie selon Luc est sensiblement différente de celle de Matthieu. On n'a pas deux généalogies qui disent la même chose, on a deux généalogies qui ont chacune un message. Celle de Matthieu, Jésus, c'est le Messie, roi, par excellence, trois fois David. Et nous devons honorer, respecter ce Messie-là. L'évangile selon Matthieu s'adresse aux Juifs. Les Juifs attendaient un roi, un Messie. Matthieu leur dit d'entrée de jeu, Jésus est le roi, le descendant de David, le Messie que vous attendez. Luc a une autre orientation. Son évangile est plutôt destiné aux gens de culture grecque. Les Grecs n'attendaient pas un roi ni un Messie. Ils se posaient par contre beaucoup de questions à propos de Dieu, ou plutôt des dieux. Les Grecs étaient polythéistes. La généalogie de Jésus dans l'évangile selon Luc a donc pour objet de montrer que Jésus est fils de Dieu. Dieu, tout compte fait. Alors oui, réjouissons-nous. Jésus est notre roi. Il est le fils de Dieu. Ne l'oublions pas. Noël est là pour nous le rappeler. Je vous souhaite un bon Noël.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur Emmanuel Lopez, pasteur à Toulouse et secrétaire général de la Fédération des Églises Adventistes de France Sud. Merci à Clotilde Pivin pour la réalisation, à Pascal Bénard pour la prise de son de ce service protestant qui est proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Et si vous désirez recevoir le texte de cette émission par courrier, vous pouvez écrire au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Restez à l'écoute de France Culture. Dans un instant, à suivre le journal. Et puis vous retrouverez Marc-Alain Wacknin pour Talmudique. Je vous retrouve demain pour l'émission spéciale de Noël. Ce sera à 9h30 avec le pasteur Michel Bloch de l'Église protestante unie de France. Très bonne journée à vous tous. Joyeux réveillon et à demain.